Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Oui, votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu, qui avez dénoué votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur
Saint
nous.
Pédis, Saint
nous.
Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour
du
nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau traité, qui est assez court, traité sur l'espérance. Donc, on a vu déjà la foi, seconda, seconde, deuxième partie de la deuxième partie, question 1 à 16. Et maintenant, l'espérance, question 17 à 22. C'est un traité beaucoup plus facile. Et c'est une vertu théologale, donc la vertu théologale qui nous est donnée, qui nous donne le courage de prier. Ça, l'espérance. L'espérance nous oblige à regarder vers le ciel alors qu'on a envie de regarder la boue d'ici-bas. En gros, c'est ça. Et c'est une vertu dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la foi, on parle beaucoup de la charité, mais l'espérance est un peu laissée pour compte. Et en fait, on se rend bien compte qu'il ne peut pas y avoir de foi sans espérance. Il ne peut pas y avoir de charité sans espérance. De la façon que celui qui a la charité, il a ipso facto la foi et l'espérance. Donc l'espérance, en quelque sorte... Souvent, on compare ça, c'est Mgr Williamson qui avait cette comparaison que j'aimais bien, il compare aussi ça à la petite flamme de la gazinière, toute petite flamme, vous voyez, flamme pilote, je crois qu'on appelle ça, qui est toute petite, elle fait 2 mm de long, on a l'impression que ça ne sert à rien, puisque ce machin-là, ça ne roule pas, ça ne chauffe pas, ça ne fait pas de lumière, à quoi ça sert. Oui, mais si elle n'est pas là, quand vous tournez le gaz, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui brûle. Au contraire, tant que la petite flamme est là, vous tournez le gaz, et hop, ça s'enflamme. C'est un peu l'espérance. Alors, vous avez ça sur le polycopier, page 93. Donc, question 17 à 22. Donc, je vais vous résumer rapidement ce traité, parce que là, dans le polycopier, je n'ai utilisé que la question 19, article 1. Une question très importante qui mène beaucoup de choses. Dieu doit-il être craint? On dit que Mgr Lefebvre nous disait avec raison que le crime de Vatican II, c'est d'avoir supprimé la crainte de Dieu. Et c'est très vrai. En supprimant la crainte de Dieu, on fait sauter l'espérance. Parce que c'est la crainte de Dieu qui protège l'espérance et c'est l'espérance qui nous amène à la crainte de Dieu. Quand on verra après que la crainte de Dieu n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, d'avoir peur de Dieu, c'est pas du tout ça. D'avoir peur d'offenser Dieu. Et on ne peut pas avoir d'espérance, il ne peut pas y avoir d'amour sans espérance. Voyez? Donc on peut expliquer ça avec une comparaison toute simple. Donc s'il y a l'espérance, il y a la crainte de Dieu. Bon. Imaginez, donc vous avez l'espérance qui entraîne la crainte de Dieu, la crainte de Dieu entraîne l'amour de Dieu. D'accord? Bon, pour une comparaison toute simple, imaginez deux époux qui s'aiment tendrement, et à partir du moment où ils s'aiment, ils vont craindre de faire du mal, ils vont craindre de s'offenser mutuellement. Bon. Un époux qui aime beaucoup son épouse va craindre de faire de la peine à son épouse, même sur des petites choses. D'accord? Un époux qui ne craint pas de faire de la peine à son épouse, finalement, est un époux qui n'a pas la crainte de faire de la peine à son épouse et donc qui n'a pas l'amour de son épouse. Mais c'est pareil avec le bon Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas de faire de la peine au bon Dieu par le péché, quelqu'un qui n'aime pas le bon Dieu. Donc l'espérance est absolument nécessaire pour avoir cette vertu de charité. Alors voyons un petit peu rapidement, je vais vous résumer aujourd'hui le traité d'espérance. Encore une fois, je n'ai pas le temps de tout mettre sur le polycopier, je n'ai mis que certains corps d'articles, c'est tout ce que je fais. Alors voyons rapidement donc, les différentes questions. Question 17, c'est de la nature de l'espérance. Donc n'oubliez pas que c'est une vertu surnaturelle. Une vertu surnaturelle, théologale. Théologale, ça veut dire quoi? Qu'elle est centrée sur Dieu. Pour expliquer l'espérance, il suffit de reprendre l'hymne de, pas l'hymne, l'acte d'espérance. Quelqu'un qui a compris l'acte d'espérance comprend la vertu d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, vous êtes fidèle à vos promesses. Donc la vertu d'espérance est une vertu qui va nous permettre justement de d'espérer avec une ferme confiance de suivre les commandements de Dieu et avec sa grâce justement un jour d'obtenir le paradis. C'est une vertu très importante aujourd'hui parce que je pense que beaucoup de fidèles, moi le premier d'ailleurs, on est tous un peu tentés par ça, sont très tentés par le découragement, soit à cause de leur propre péché, soit à cause de l'état du monde moderne. Bon. Et si on regarde que l'état du monde moderne, bon, eh bien, ça sert à rien, quoi. On se décourage complètement. Vous voyez, c'est des petites choses qui nous rappellent que, eh bien, qu'il y a encore un bon Dieu. Alors, un exemple tout simple que je vais vous donner cet après-midi, je vais faire le plein avec ma voiture, remplir le réservoir. Et donc, j'étais à la pompe, pompe automatique, en train de mettre ma carte de crédit pour faire le plein. Et en face de moi, il y avait un type de l'autre côté de la pompe qui correspondait à la mienne. Il me regarde, il me dit « Ah, ça fait vraiment plaisir de voir un cure en soutane. » Bon, et puis on a un peu causé, mais il m'a répété plusieurs fois. Oui, ben, je suis content de l'avoir vu un prêtre en soutane aujourd'hui. Bon, c'est rien, c'est la petite flamme encore une fois. Mais parfois, il faut une toute petite étincelle pour faire un feu de forêt. Oui. Alors, première question, donc, de la nature de l'espérance. Saint Thomas va commencer par se poser la question de savoir si c'est une vertu. Rappelez-vous la définition d'une vertu surnaturelle, habitus operativus bonus, c'est-à-dire un habitus qui d'opérer dans le bien. Voilà, c'est ça. Donc la vertu étant ce qui donne la bonté à un homme à ses actions, ce qu'on appelle la vertu. Donc, tous les actes humains correspondent à une vertu du moment qu'ils sont bons. Et ils le sont par la conformité à la mesure qui leur est propre. Soit la raison, soit Dieu. Donc il y a des vertus naturelles qui sont conformes à la raison. Si elles ne sont pas conformes à la raison, elles ne peuvent pas être appelées vertus naturelles. Soit Dieu, la règle suprême. Donc une vertu surnaturelle, c'est une vertu qui va être conforme à la bonté de Dieu, à ce que le bon Dieu demande pour pouvoir justement utiliser sa bonté. Donc c'est une élévation vers Dieu, et cette conformité à la règle principale de nos actes produit un acte bon. Donc c'est une vertu. Alors attention, toujours pareil, de bien distinguer entre l'espérance naturelle et l'espérance surnaturelle, comme il faut distinguer entre la charité naturelle et la charité surnaturelle, la foi naturelle et la foi surnaturelle. Là on parle de vertu surnaturelle. Qui dit vertu surnaturelle, dit vertu centrée sur Dieu. C'est vertu théologale, attention, théologale. Théo, c'est Dieu en grec, et logos, c'est la parole. Donc, théologa, c'est une vertu qui met en nous la parole de Dieu. Donc, une vertu qui a Dieu pour objet. D'accord ? Alors, saint Thomas va se poser la question de savoir quel est l'objet de l'espérance. Donc, à quoi sert l'espérance ? Pourquoi le bon Dieu nous a donné l'espérance ? Alors, la béatitude est-elle l'objet propre de l'espérance, ce que demande saint Thomas? Eh bien, il va répondre évidemment positivement. Il va citer saint Paul. Nous avons une espérance qui pénètre jusqu'au-dedans du voile. Il y a l'espérance à nous faire comprendre et espérer des choses qu'on ne peut pas voir ici-bas. C'est pour cela que l'espérance, je l'ai déjà expliqué souvent, l'espérance ne peut pas exister au ciel. Le ciel n'a pas d'espérance parce qu'on voit Dieu. Donc on n'a pas espéré Dieu parce qu'on le possède. Et si on ne le possède pas encore, donc il faut l'espérer. D'accord ? Donc le bien, les effets doivent être proportionnés à leur cause, et le bien propre et principal que l'on espère de Dieu, c'est le bien infini. Le seul qui est en proportion avec la grâce divine. Dieu étant infini, eh bien, il va donner un bien infini. Donc la béatitude éternelle, la possession même de Dieu, voilà donc l'objet propre de l'espérance, posséder Dieu. C'est pour cela que l'espérance est une vertu théologale qui va nous apprendre à prier. La foi pour croire, d'abord croire, évidemment, on ne peut pas prier sans croire. Deuxièmement, il faut espérer pour prier. Et troisièmement, il faut aimer pour suivre les commandements du bon Dieu. Et donc le but de la manœuvre, le but de l'usage de l'espérance, l'usage de la foi, c'est d'obtenir l'accomplissement des commandements de Dieu pour nous. Donc la foi et l'espérance donnent, finissent par amener à la charité. Et la charité, c'est quoi? La charité, c'est pas aimer le prochain. En soi, en tant que tel, c'est aimer le prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu, et aimer Dieu en suivant ses commandements. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'en fait qu'à notre tête. Hein, donc attention, c'est, rappelez-vous la phrase de notre Seigneur, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Hein. Donc, il est important de comprendre cela, que le but de l'espérance, c'est la possession même de Dieu. Alors, on peut expliquer d'une autre façon en disant que l'âme, si vous voulez, ne peut pas survivre sans adorer quelqu'un. L'âme est faite pour adorer. Il y a une fonction d'adoration naturelle dans l'âme. Alors, ou on adore un vrai Dieu, ou on adore un faux Dieu, ou on adore quelqu'un. L'âme est faite pour être remplie avec quelque chose. On l'a remplie avec quelque chose surnaturel, on l'a remplie avec quelque chose naturel. Et puis il y a de choses naturelles, moyen place pour les choses naturelles. Et puis il y a de choses naturelles, surnaturelles dans l'âme, moyen place pour les choses naturelles. Hein? Donc il est absolument évident que l'espérance est fondamentale pour justement vider l'âme des choses superficielles, des choses secondaires, des choses sans importance, pour les remplir des choses importantes. Précisément parce que le but de l'espérance, c'est l'obtention de la béatitude infinie, la béatitude éternelle. Alors, saint Thomas se pose, troisième article de la question 17, l'espérance peut-elle avoir pour objet la béatitude d'un autre? Il va répondre, l'espérance se rapporte directement au bien propre à celui qui les espère et non au bien d'un autre. D'accord? Mais, il y a quand même des distinctions qu'il faut faire. Toutefois, dit-il, si l'on présuppose l'union que la charité établit entre deux personnes, l'une d'elles, pouvant alors espérer quelque chose pour l'autre comme pour elle-même, peut aussi espérer pour cet autre la béatitude éternelle. Cependant, en soi, l'espérance est d'abord pour nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Quatrième article, la question 17. Nous est-il permis d'espérer dans l'homme? Une bonne question pour aujourd'hui, ça tient. Bon, saint Thomas va répondre, il n'est pas permis d'espérer dans l'homme ou dans quelque autre créature comme dans la cause principale qui élève à la béatitude. Malheur à celui qui met sa fin dernière en homme. C'est ça l'idolâtrie. Et il faut bien comprendre une chose, le monde moderne ne peut pas vivre, comme le monde classique ne peut pas vivre sans une idole. Ou on adore une véritable idole, une vraie idole, ou on adore une fausse idole. On adore un vrai Dieu, on adore un faux Dieu. Hein? Là, ça laisse rêveur quand on voit, par exemple, Johnny Hallyday qui se faisait passer pour l'idole des jeunes. L'idole des jeunes. Ouais, pauvre type.
Maudit soit l'homme qui met son espérance.
Voilà. Ben non, on met l'espérance en Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans son semblable. C'est le prophète Jérémie. Mais il est permis d'espérer dans l'homme ou dans une autre créature, comme dans un agent secondaire et instrumental qui peut aider à obtenir les biens qu'on leur apporte à la béatitude. J'ai le droit d'espérer en quelqu'un pour que cette personne m'aide à atteindre ma béatitude ou que je puisse l'aider à atteindre sa béatitude, qui est la même. C'est quelque chose d'absolument fondamental. S'il n'y a pas cette vertu d'espérance, il ne peut pas y avoir la charité. La charité ne peut pas exister sans la vertu d'espérance. C'est quand il y a la vertu d'espérance dans une âme, l'espérance surnaturelle théologale, il y a ipso facto la vertu de foi et la vertu d'espérance. Alors, l'espérance est-elle une vertu théologale, centrée sur Dieu? La réponse est évidemment oui. Hein? Il suffit de considérer qu'elle s'appuie sur le secours de Dieu pour arriver à la béatitude et que son objet principal est conséquemment Dieu lui-même. Donc, l'espérance nous rappelle qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable d'atteindre Dieu par nos propres forces. Bon. Et on le voit très bien dans le monde moderne, quoi. L'homme moderne refusant le vrai Dieu va s'accrocher au faux Dieu. Voyez, s'accrocher au faux Dieu. Et on voit ça surtout avec la musique rock, surtout la musique rock et qui rentre dans l'âme des gens, ce qui fait que la plupart des gens vont considérer leur chanteur rock comme des idoles. Je vois un groupe par exemple qui est encore en train de faire parler d'eux. Là, je pensais qu'ils étaient morts d'intérêt, ceux-là, mais ils sont encore vivants, pareil. Les Rolling Stones. Bon, ça, c'est des gens de mon époque, quoi. Ma génération, en quelque sorte, quand j'étais gamin, c'était les Beatles et les Rolling Stones. Mais quand on voit le mal qu'ont pu faire ces gens-là, mais c'est affolant. Le jour où ces gens-là vont arriver devant Dieu, qu'est-ce qu'ils vont avoir à donner, quoi? Vous savez que c'était John Lennon, je crois, qui avait dit « Nous sommes plus connus que notre Seigneur Jésus-Christ, que le Christ. Plus connus que le Christ. » Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Il y a comme aussi, je crois que c'est en Thaïlande, il y a eu la mort du roi, et puis tous les gens du peuple pleuraient à chaudes larmes devant leur roi qui prenait pour un Dieu.
Oui, parce que surtout dans ces régions, dans le shintoïsme, c'est un peu comme ça, au Japon, c'est ça. Le roi, l'empereur surtout, est une image de Dieu. Une image, une divinisation, non pas tellement, pas seulement de l'empereur, il y a une divinisation de l'autorité en tant que telle. Ce qui peut être compréhensible dans un certain sens.
C'est hein?
Mais c'est dangereux, quoi. Par exemple, avant c'était comme ça, maintenant c'est en train de changer avec l'arrivée du monde moderne. Mais avant au Japon, le chef d'entreprise avait des honneurs qui touchaient aux honneurs divins. Au moins en partie. Parce que le chef d'entreprise, c'était celui qui servait en quelque sorte d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. D'accord ? Alors, l'espérance, article 6, donc rapidement j'explique les parties qui ne sont pas dans le polycopié. L'espérance se distingue-t-elle des autres vertus théologales ? Alors la réponse est oui, il faut distinguer les choses. Bon. J'ai expliqué par la charité, donc dit saint Thomas, nous attachons à Dieu pour lui-même. Hein, c'est la vertu la plus haute, donc c'est la vertu de charité, qui a pour but de nous faire aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, il faut lui obéir. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans lui obéir. Ça aussi, c'est très important dans le monde moderne. Les gens font une séparation entre l'obéissance et l'amour. Et c'est ça qu'il faut. Il ne peut pas y avoir de véritable amour sans obéissance. L'obéissance qui n'est pas basée sur l'amour est une fausse obéissance. Donc le but de la charité, c'est d'obéir à Dieu, d'obéir à sa loi, et prouver à Dieu qu'on l'aime en obéissant à sa loi. On verra ça dans le traité sur la charité. Donc par la foi, nous attachons à lui comme un principe qui nous fait connaître la vérité. Nous attachons à Dieu comme ce principe qui nous fait connaître la vérité. Donc par la charité, je recommence, par la charité, nous attachons à Dieu lui-même. Donc par la foi, par l'espérance, nous attachons comme un principe d'où nous viennent certains biens. Par la foi, nous attachons à lui comme un principe qui nous fait connaître la vérité. Par l'espérance, nous y attachons comme un principe qui met les hommes en possession d'une bonté parfaite. L'espérance, si vous voulez, a pour but, il ne faut pas oublier ce que Satan a déjà expliqué, le but propre, la fin propre de l'espérance, c'est l'obtention de la béatitude éternelle. Garder les yeux vers le ciel pour considérer cette vérité que je ne peux pas encore avoir maintenant et qu'un jour je posséderai. Alors, septième article, l'espérance précède-t-elle la foi ? Alors, attention à cette question. En fait, la réponse est négative. Hein. Un homme ne saurait espérer si l'objet de son espérance n'est pas proposé comme possible. En fait, c'est parfaitement logique. Comment voulez-vous espérer en Dieu si vous ne connaissez pas Dieu ? Par la foi. La connaissance de Dieu, c'est d'abord la foi. C'est la foi qui va nous faire connaître Dieu. Et donc, j'espère en un Dieu que je connais par la foi. Il n'y a pas la foi, mais il peut y avoir l'espérance. D'accord ? Donc, il y a en principe une hiérarchie, si vous voulez, une hiérarchie au niveau du temps, d'abord la foi, puis l'espérance, et enfin la charité.
La foi nous amène à l'intelligence de Dieu, et l'espérance comme la volonté d'aller à Dieu, c'est pas ça?
C'est ça, la foi nous permet de croire, donc le but de la foi c'est la croyance, de croire, et l'espérance c'est de prier. Prier Dieu, donc il faut prier Dieu que je connais par la foi. Donc comment puis-je prier quelqu'un que je connais pas? Impossible. Donc la foi me donne la connaissance de Dieu et l'espérance va se rajouter à la foi pour me permettre d'espérer, de prier celui que je connais par la foi pour atteindre la charité. D'accord ? Donc il est évident, dit saint Thomas d'Aquin, que la foi précède l'espérance. Un homme ne saurait espérer si l'objet de son espérance ne lui est proposé, n'est pas proposé comme possible. Donc si quelqu'un voit l'espérance, a l'espérance tellement éloignée, si vous voyez, le but de son espérance tellement éloigné de la réalité, que ben, finalement il va complètement perdre l'espérance en tant que tel. Au contraire, si nous savons par la foi que Dieu existe, que Dieu nous a créés, que Dieu est mort pour nous, à ce moment-là ça nous donne l'espérance. Alors, la charité, article 8, est-elle antérieure à l'espérance ? Voilà ce que va dire saint Thomas d'Aquin. Donc il y a deux ordres, l'ordre de la génération, où l'imparfait précède le parfait, et celui de la perfection, où le parfait est naturellement avant l'imparfait. Dans l'ordre de la génération, l'espérance précède la charité. En fait, c'est d'abord la foi qui donne l'espérance. L'espérance et la foi, unis, vont donner la charité. Cependant, lorsque le bon Dieu donne d'un seul coup la foi à une âme, par exemple par le baptême d'adulte, entre autres, bien, quand on baptise un adulte, la personne obtient la vertu de charité. Par la vertu de charité, il obtient ipso facto la foi et l'espérance. Donc la charité commence et la foi et l'espérance vont suivre. Sinon, d'ordinaire, c'est l'inverse qui se passe. On commence par la foi pour croire, puis l'espérance se rajoute, espère obtenir, un jour posséder ce qu'on croit. Et évidemment, cela va amener à la charité. Donc l'amour que suppose l'espérance est l'amour imparfait. Puisque l'homme qui espère a le désir d'obtenir quelque chose pour soi, et que l'amour parfait, qui n'est autre que la charité, s'attache à Dieu pour lui-même. Vous voyez, une fois qu'on sera au ciel, on sera tellement illuminé par Dieu qu'on aura même plus, on pensera même plus à nous-mêmes. Vous voyez, et souvent les gens me demandent, même chez lui, une fois que je serai au ciel, est-ce que je pourrais jouir de la présence de mon mari, par exemple, pour les gens mariés. Bon, il faut leur répondre, mais au ciel, il n'y a plus de mariés. Le mariage n'existe plus au ciel. Dans le sens que le mariage, vous êtes marié. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça quand on leur dit, ils ne sont pas contents, mais il faut dire, attention, une fois que vous serez au ciel, vous ne serez plus mari et femme. Parce que mari et femme, c'est quelque chose d'ici-bas. Donc le sacrement de mariage est un lien qui va se rompre, qui est rompu par la mort. Donc une fois que la mort est arrivée, il n'y a plus de sacrement de mariage. C'est bien pour ça qu'une personne qui est veuve peut se remarier. Donc au ciel, on n'aura plus, les gens disent, monsieur l'abbé, est-ce que je pourrais voir mes enfants, mes petits-enfants, mon mari, etc. au ciel. Mais on n'aura même plus besoin de tout ça, parce qu'on sera tellement imprégné de Dieu qu'on ne désirera même pas autre chose que de posséder Dieu. D'accord ? Question 18. Donc on avance. Du sujet de l'espérance. Alors on avait déjà vu que la foi avait pour sujet l'intelligence. Eh bien, l'espérance a pour sujet la volonté. L'espérance existe-t-elle dans notre volonté comme dans son sujet? Article 1 de la question 18. Et la réponse est oui. L'espérance n'appartient pas à l'appétit sensitif, puisqu'elle a pour objet principal le bien divin et non le bien sensible. Elle existe donc dans la partie supérieure qu'on appelle la volonté. Donc, l'intelligence va être illuminée par la foi pour désirer pour comprendre plus exactement le vrai. L'objet de l'intelligence est le vrai. Et la volonté, qui a pour objet le bien, le bon, si vous voulez, eh bien, la volonté va être couplée à l'espérance. L'espérance est donc, existe donc dans notre volonté comme dans son sujet. Alors, deuxième article, l'espérance existe-t-elle dans les bienheureux? La réponse est non, puisque les bienheureux sont au ciel, et au ciel on voit Dieu, donc on n'a plus besoin d'espérer. Les bienheureux jouissent de la vision de Dieu. Il n'y a plus lieu pour eux de l'espérer. On espère un bien qu'autant qu'il est à venir. Donc pas d'espérance pour les gens qui sont au ciel. Et si on espérait toujours au ciel, ça veut dire qu'on ne posséderait pas Dieu. Oui.
L'histoire du riche qui est en enfer.
Oui.
Du riche.
Et Lazare.
Voilà, de Lazare.
Bon.
Mais donc, s'il n'y a plus d'espérance dans le paradis, est-ce qu'il peut y en avoir encore dans l'enfer, étant donné qu'il le demande à...
Alors, l'enfer, c'est ce qu'on appelle la peine du dent. C'est ça, la peine du dent.
Oui.
La peine du dent comprend... La peine du dent, c'est quoi? C'est un désir de Dieu inassouvi, qui ne pourra jamais être satisfait. La peine du dent, c'est la séparation de Dieu. Bon. Et donc, la vertu d'espérance, la vertu théologale d'espérance pour un chrétien, c'est une vertu qui va mener à quelque chose. J'espère un jour aller au ciel et je peux, avec la grâce du bon Dieu, y aller. Alors que le damné en enfer, il espère aller au ciel, mais il sait que cette espérance est folle et qu'en fait, il n'aura jamais la possibilité d'aller au ciel. Donc la conséquence du manque d'espérance ou de l'espérance, si vous voulez, d'un damné, c'est un découragement total, profond, parce qu'il se rend compte qu'il espère quelque chose qu'il ne pourra jamais obtenir, alors que le catholique espère quelque chose qu'il sait pouvoir obtenir. Et c'est la façon aussi d'expliquer la différence de peine qui existe entre la peine du temps, de ceux qui sont en enfer, et la peine de ceux qui sont en purgatoire. Bon. Est-ce que les derniers en enfer ont la peine du damné. Oui, la peine du damné, c'est la peine de séparation totale avec Dieu. Est-ce que les âmes du purgatoire ont la peine du damné? Oui, de façon imparfaite. Imparfaites, ils n'ont pas une peine du damné totale, parfaite, parce que ils aspirent après Dieu, ils voudraient posséder Dieu, mais en même temps, ils savent qu'ils vont y arriver. Ils savent, la personne, l'âme du purgatoire, est sûre d'être sauvée. Et donc, ça lui donne en même temps une joie extraordinaire, un désir de souffrir pour se purifier. D'accord ? Alors, l'espérance donc, ne peut pas exister chez les damnés. Donc, ils ne croient pas pouvoir retourner des ténèbres à la lumière. C'est le prophète Job qui dit ça. Quatrième article, l'espérance de l'homme voyageur, ici-bas, est-elle certaine ? La réponse est oui. Notre espérance est certaine. Pourquoi ? Parce que l'espérance tend avec certitude vers sa fin qui est appuyée sur la foi. La foi me dit que Dieu existe et que j'espère posséder un jour Dieu parce que la foi me dit qu'elle existe. D'accord ? J'espère un jour aller au ciel parce que la foi me dit que le ciel existe. L'espérance repose tellement sur la toute-puissance de Dieu et sur sa miséricorde que celui qui n'a pas la grâce pour l'obtenir et parvenir au ciel. D'accord ? C'est que celui qui n'a pas la grâce pour l'obtenir. Ben, il manque un mot là. On dira peut-être que nous ne pouvons pas être assurés d'avoir la grâce. Nous répondrons que l'espérance repose tellement sur la toute-puissance de Dieu et sur sa miséricorde que celui qui n'a pas la grâce peut l'obtenir et parvenir au ciel avec la grâce du bon Dieu. D'accord ? Donc, Dieu me donne la grâce pour que je garde mon regard tourné vers le ciel. Article, question 19, donc on avance. Dieu peut-il être craint? Du don de crainte, Dieu peut-il être craint? Alors ça, c'est une question extrêmement importante pour que les choses soient claires là-dessus. Peut-on craindre Dieu? Oui, on peut craindre Dieu. Donc on va voir ça, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc question 19 du don de crainte, article 1 de la question 19, peut-on craindre Dieu? Donc là, vous avez l'explication dans le polycopier page 93, donc sous le titre l'espérance. Hein? Question 19, article 1, Dieu doit-il être craint? Voilà. Donc la crainte peut avoir un double objet, dit saint Thomas. Le mal que les hommes fuient et ce qui peut être la cause du mal, d'un mal. Dieu, qui est la bonté même, ne saurait être l'objet de la crainte. D'accord ? Dans ce premier sens. Mais il peut l'être dans le second. D'accord ? C'est-à-dire, Dieu, on peut craindre, perdre, la crainte de perdre Dieu. La crainte d'offenser Dieu. Ça, c'est une crainte qui est bonne. Et c'est le don de crainte de Dieu. Ce don, je l'ai dit, souvent, a été complètement éliminé par l'Église, dans l'Église de Vatican II. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Et n'ayant plus de crainte de Dieu, comme la crainte de Dieu est nécessaire pour aller au salut, pour aller au ciel, il n'y a plus de crainte de Dieu, plus de possibilité d'aller au ciel. Les gens se donnent. Alors, les maux dont il peut être la cause directe, ce sont les châtiments que sa justice nous inflige. Ceux que nous pouvons éprouver à son occasion sont les péchés qui nous séparent de lui. Donc, je sais que le péché est pour moi une séparation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous avez ces explications là sur le texte de la page 93, sur le polycopier. Je reprends ça. Ta perdition vient de toi, ô Israël, mais c'est de moi que tu viens, tu tiens, que te vient le secours. D'accord ? Alors, la crainte peut avoir un double objet. L'un est le mal que l'homme fuit, l'autre est la réalité d'où peut venir ce mal. Donc, sous le premier aspect, Dieu, qui est la bonté même, ne peut être objet de crainte. On ne peut pas craindre quelque chose qui est la bonté même. Mais sous le second aspect, il peut être objet de crainte du fait que quelque mal venant de lui ou en relation avec lui peut nous menacer. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que l'amour, le désir de Dieu, c'est la vertu d'espérance, est en même temps basé sur la crainte parce que je sais à quel point il est facile de perdre ce que j'aime. Donc je désire aller au ciel, mais malheureusement ici-bas je peux perdre le ciel très facilement par un simple péché mortel. D'accord ? Venant de Dieu, donc le mal qui nous menace est le mal de peine. Le mal de peine, attention, donc strictement parlant, n'est pas un mal en lui-même, il est absolument un bien. Bon, il y a une peine qui est nécessaire pour nous faire comprendre l'amour du bon Dieu pour nous. On ne pourrait pas comprendre l'amour du bon Dieu pour nous s'il n'y avait pas un châtiment pour ceux qui perdent Dieu. D'accord ? Je vais arrêter mon téléphone. Donc, le manque d'espérance, dit saint Thomas, ça c'est important à comprendre, se définit par le manque d'espérance, c'est la privation d'un ordre, privation d'une chose qui est due. C'est ça ma définition du mal, privation d'un être dû, d'une chose qui est due. Donc, puisque le bien se définit par son ordre à une fin, le mal se définit par la privation de cet ordre. Bon, la privation du bien dû, c'est ça le mal. Bon. Est-ce qu'une pierre va souffrir d'être aveugle? Non, parce que la pierre n'a pas pour but, pour vocation d'être voyante. Donc elle va pas souffrir de ça. Bon. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'un chat va souffrir de ne pas aller au ciel? Non, il ne va pas souffrir de ne pas aller au ciel parce qu'un chat n'a pas d'intelligence et donc n'a pas d'âme raisonnable. D'accord? Donc, quant au mal de peine, donc c'est un mal en ce qu'il prive d'un bien particulier, mais c'est un bien en lui-même en tant qu'il relève de l'ordre de la fin ultime. Est-ce que l'existence de l'enfer, par exemple, est un bien? En soi, non. En soi, c'est quelque chose de mauvais. Mais est-ce que c'est un bien? Oui, parce que des tas de gens vont au ciel justement à cause de l'enfer.
Satisfaire la justice de
Dieu. Ouais, parce que beaucoup de gens ne seraient pas au ciel aujourd'hui s'ils ne croyaient pas en l'enfer. Donc l'enfer est un moyen qu'utilise le bon Dieu pour obtenir le salut des hommes. Beaucoup de gens, en gros, le bon Dieu nous dit, mon petit garçon, j'aimerais bien que tu ailles au ciel par pur amour de bon Dieu, mais si tu n'es pas capable d'aller au ciel par pur amour du bon Dieu, ben vous allez aller au ciel par crainte. Et il vaut mieux aller au ciel par crainte que rater la porte et rester à la porte. Et alors là, il y a une phrase magnifique de saint Thomas, on va voir tout ça dans d'autres articles de la Somme. Quand nous regardons sa justice, nous sentons surgir en nous la crainte. Mais la considération de sa miséricorde fait surgir en nous l'espérance. Très beau ça. Quand nous regardons sa justice, nous sentons surgir en nous la crainte. Pourquoi ? Parce que la justice de Dieu nous rappelle que Dieu est bonté parfaite, qu'il exige un assentiment total de la volonté. Malheureusement, ben, j'y arrive pas. Donc j'ai crainte de perdre Dieu. La crainte de perdre Dieu. Mais la considération de sa miséricorde fait surgir en nous l'espérance. En méditant sur la miséricorde de Dieu, couplée à l'espérance au niveau de la volonté, cette espérance, si vous voulez, va permettre que j'utilise la miséricorde du bon Dieu. C'est pour ça qu'il faut méditer les deux choses. C'est dangereux d'utiliser que la justice et d'oublier la miséricorde. C'est très dangereux d'utiliser que la miséricorde et d'oublier la justice. Les deux sont liés. Donc quelqu'un qui utilise que la justice sans la miséricorde, c'est le découragement. Quelqu'un qui utilise que la miséricorde sans la justice, eh bien c'est le libéralisme. On fait n'importe quoi parce qu'on espère la miséricorde du bon Dieu. Il ne faut pas oublier que la miséricorde du bon Dieu est basée sur la foi. Donc le bon Dieu ne peut pas exercer sa miséricorde en pardonnant aux pécheurs qui n'ont repentant. Le bon Dieu peut exercer sa miséricorde en pardonnant aux pécheurs repentants. Souvent, les gens pensent que le bon Dieu peut tout faire. Il ne peut pas tout faire. Le bon Dieu ne peut pas faire un cercle carré, c'est impossible. Il ne peut pas faire qu'un âme et une âme. Parce qu'un âme n'a pas d'âme raisonnable. Donc cette phrase que j'aime beaucoup, quand nous regardons sa justice, nous sentons surgir en nous la crainte, mais la considération de sa miséricorde fait surgir en nous l'espérance. Donc la considération de l'espérance ne doit pas faire oublier la justice. Il faut la justice et l'espérance. La justice est balancée par la miséricorde, et la miséricorde est balancée par la justice. D'accord ? Donc il faut la foi en les deux choses. La grande crime de Vatican II, on parle de miséricorde à longueur de journée, mais on oublie la foi. On oublie la justice. La miséricorde et la justice sont comme les deux doigts d'une même main. D'accord ? Donc pour que Dieu puisse effectuer sa justice, exercer sa justice, pour que Dieu puisse exercer sa miséricorde, il faut d'abord la justice. La miséricorde, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que les modernes pensent, le pardon de n'importe quoi. Le bon Dieu ne va pas pardonner n'importe quoi, il ne peut pas pardonner aux pécheurs non repentants. Par contre, le pécheur repentant, dès que le bon Dieu voit qu'il y a un pécheur repentant, il pardonne. À condition, encore une fois, que le pécheur soit repentant avec une vraie repentance, c'est-à-dire qui inclut un ferme propos de ne pas recommencer. Donc, de ne pas garder dans sa vie de tous les jours des choses qui me mènent à l'offense à Dieu. D'accord ? Alors, nous finissons le texte, du polycopie, après je reprendrai le texte de saint Thomas. Dieu est donc objet d'espérance et de crainte à la fois. Le mal de faute n'a pas Dieu pour auteur, mais nous-mêmes, en tant que nous éloignons de lui. En revanche, le mal de peine a Dieu pour auteur, en tant que ce mal a raison de bien, parce que ce mal est juste. C'est la justice qu'une peine nous saute infligée pour nous ramener vers le bon Dieu. Au contraire, le mal de faute, c'est pas Dieu qui le provoque, c'est nous qui le provoquons par nos désobéissances. Le mal de peine, c'est Dieu qui choisit de punir tel péché avec tel châtiment pour être sûr que les gens ne recommencent pas. Imaginez une maman qui se rend compte que son petit garçon lui prend tout le matin une pièce d'un euro dans son portefeuille. Bon, elle se rend compte, elle parle avec le gamin pour lui dire c'est inadmissible, il faut arrêter ça. Le gamin promet de ne pas recommencer. Très bien, on pardonne. Mais la mère commence. On ne parle plus. Hein, on reparle avec l'enfant. Tu as encore volé un euro dans le portefeuille de maman. Bon. Et tant que l'enfant n'a pas arrêté sa mauvaise habitude, eh bien, il ne peut pas exercer sa miséricorde. Et quelqu'un qui exercerait sa miséricorde à la guerre de quelqu'un qui n'a aucune contrition de ses offenses, ce ne serait pas la miséricorde, ce serait la faiblesse. La justice sans miséricorde entraîne la cruauté, la miséricorde sans la justice entraîne la faiblesse. Alors, voyons un petit peu les autres textes de saint Thomas qu'on n'a pas toujours pas le temps ni la possibilité de mettre dans le polycopier. Alors, est-ce que j'en suis là? Non. Alors, on a vu déjà le premier article de la question 19. Peut-on craindre Dieu? Donc, comprenons bien. Il faut craindre la justice de Dieu, mais il ne faut pas que cette crainte nous entraîne au désespoir, parce que la crainte de Dieu doit être couplée avec l'espérance. Donc, le don de crainte de Dieu, c'est le don qui consiste à craindre d'offenser Dieu. Je ne crains pas d'offenser Dieu, mon amour pour Dieu est fou. Un époux qui ne craint pas d'offenser son épouse est un époux qui n'aime pas son épouse. Vous voyez ? Et parfois, il faut savoir faire plaisir sur des petites choses. Un exemple tout simple, dans les ménages, il y a peut-être des problèmes partout, des petits problèmes, bon, c'est pas forcément des gros problèmes, mais imaginez, une maman, une épouse qui dit à son mari, ben écoute, je ne veux pas que vous fumiez à la maison. Voilà. J'aime pas ça, parce que moi je fume pas, ça fait des taches partout, ça fait des odeurs qui restent, ça fait des cendres partout, s'il vous plaît, ne fumez pas dans la maison. Oui, et puis en fait, le mari s'en fiche et continue de fumer dans sa maison. Est-ce qu'il a un amour pour sa femme? Non. S'il aimait sa femme, eh bien, il s'avancerait à ses désirs et arrêterait de fumer dans la maison. Non. J'ai connu des maris comme ça, qui avaient compris ça, et ils s'étaient mis d'accord le jour du mariage. Elle ne pouvait pas supporter le tabac, lui il fumait peut-être un peu trop. Elle dit okay, moi je vais me promettre que tu ne fumeras jamais dans la maison. Et bien, le mari, même après 10 ans, 20 ans de mariage, il fumait une cigarette et puis il sortait dehors. Il allait dans la cour, il allait dans le jardin pour fumer sa cigarette et pas dans la maison. Alors, deuxième article de la question 19. La crainte se divise-t-elle en crainte filiale, en crainte initiale, en crainte servile, en crainte mondaine? Alors, les différentes façons de diviser. Souvent dans les catéchismes, on divise entre la crainte imparfaite et la crainte parfaite. La crainte servile, imparfaite, parfaite. Les trois degrés. La crainte servile, servile, le mot servile vient du mot servus, qui veut dire l'esclave en latin. Donc la crainte servile, c'est la crainte de l'esclave. J'arrête de pécher parce que je ne peux pas pécher. Donc la crainte servile connote un désir de pécher. J'ai toujours le désir de pécher, je ne pêche pas parce que je ne peux pas pécher. Voilà, je voudrais voler telle chose, mais j'ai une main paralysée, je ne peux pas faire ce que je veux faire. Mais si je pouvais, je volerais la chose. Je volerais telle personne. Crainte. Donc C'est aussi, si vous voulez, la crainte d'une personne qui ne fait pas une chose mauvaise, une chose pécaminose, parce qu'elle a peur de se faire prendre. C'est l'enfant qui ne va pas voler un euro dans la salle de sa mère, parce qu'il sait que sa mère va s'en apercevoir. Et donc, il garde la volonté de pécher. Ça, c'est la crainte servile. La crainte imparfaite, c'est pas du tout ça. La crainte imparfaite, c'est regretter son péché par peur d'offenser Dieu. La crainte servile, je garde la volonté de pécher, je ne pêche pas parce que je ne peux pas. Crainte imparfaite, je ne pêche pas parce que j'ai peur. Je reprends mon exemple. La crainte imparfaite, c'est la crainte des conséquences du péché, la crainte des châtiments. Donc, je voudrais pécher, mais je ne pêche pas, je ne veux plus pécher parce que je crains les châtiments. La différence entre les deux. Crainte servile garde le désir de pécher. Si je pouvais le pécher, je le ferais. Je ne le fais pas parce qu'il y a un châtiment. D'accord ? Donc, la volonté est toujours ancrée vers la désobéissance à Dieu. Au contraire, avec la crainte imparfaite, c'est je regrette mes péchés parce que j'ai peur d'aller en enfer. Bon. Et ça entraîne un désir de ne plus pécher. Enfin, troisième crainte, sa crainte parfaite, l'idéal, c'est l'amour de Dieu, la crainte de l'amour, par l'amour de Dieu, regretter ses péchés par pur amour de Dieu. Bon, c'est ça qu'on vise. Dans les exercices satiniens, on vise bien sûr à la crainte parfaite, à la contrition, ce qu'on appelle la contrition parfaite de nos péchés. Alors, saint Thomas, lui, prend une distinction un peu distincte, un peu différente. Il distingue crainte filiale, crainte initiale, crainte servile, crainte mondaine. Donc voilà ce qu'il dit. Crainte mondaine, c'est la crainte de certains maux. Bon, ça peut correspondre à la crainte imparfaite. D'accord ? Crainte servile, se tourne-t-il vers Dieu parce qu'il craint la peine ? Crainte servile. Bon. Et enfin, crainte filiale, s'y tourne-t-il parce qu'il craint le péché ? Et enfin, crainte initiale, craint-il tout à la fois et le mal de la peine et le mal du péché. Bon. Personnellement, je pense que la division du catéchisme est plus simple à comprendre. Hein. Donc lui, saint Thomas distingue entre une crainte mondaine, une crainte servile, une crainte imparfaite, une crainte parfaite. Bon. Il me semble qu'il est plus facile d'expliquer crainte servile, qui n'est pas une crainte, une fausse crainte, crainte imparfaite, ne pas pécher par peur d'offenser Dieu, par peur de châtiment, l'enfer, et crainte parfaite, ne pas pécher par peur de forcer Dieu, d'accord, par amour de Dieu. Donc, le don de crainte de Dieu va entraîner, s'il est bien utilisé, va entraîner une crainte parfaite, une contrition parfaite. Donc, la contrition parfaite, c'est ça. Et il ne faut pas oublier que même si quelqu'un se confesse avec une contrition imparfaite, saint Thomas enseigne que la contrition imparfaite va être transformée en contrition parfaite par la confession. Per absolutio, attritum fit contritum. C'est-à-dire l'attrition, la contrition imparfaite devient contrition parfaite par la pénitence. D'accord ? Donc même si quelqu'un se présente au confessionnal avec une crainte imparfaite, l'absolution qu'il va recevoir va transformer cette crainte imparfaite en crainte parfaite. Par contre, si quelqu'un se présente au confessionnal avec une crainte servile, il ne peut pas recevoir l'absolution. L'absolution serait invalide parce qu'en fait, il ne regrette pas son péché. Il regrette simplement de ne pas pouvoir pécher. C'est la personne qui est en train de mourir et qui se dit « Dommage, je meurs, je ne peux pouvoir pécher. » À un moment donné, je regrette bien mes péchés. Tu parles. En fait, il ne regrette rien du tout parce qu'il a toujours envie de pécher. Alors, attention, c'est différent d'une certaine tentation. Je regrette mes péchés, je me suis accusé de mes péchés et je crains fortement de retomber. Contrition parfaite. C'est même quand c'est pas une contrition parfaite, même s'il y a une crainte de retomber dans le péché. Je connais mes faiblesses, je risque de retomber, mais j'aime le bon Dieu quand même de toutes mes forces, et je regrette mes péchés par pur amour du bon Dieu. C'est une crainte parfaite. D'accord ? Une contrition parfaite. Troisième article de la question 19. La crainte mondaine est-elle toujours mauvaise ? Donc je rappelle que la crainte mondaine, c'est s'éloigner de Dieu par la crainte de certains maux. M-A-U-X, oui. La crainte mondaine ou humaine étant celle qui procède de l'amour par lequel on s'attache au monde comme à une fin dernière, est toujours mauvaise à raison de l'amour même dont elle procède. Donc ici, il prend le terme de mondain dans le fait que je m'attache au monde comme si le monde devenait Dieu pour moi. D'accord ? Qui procède de l'amour par lequel on s'attache au monde comme à une fenêtre. Je m'attache au monde comme si ce monde, le monde était ma fenêtre. Donc le monde devient mon Dieu. Donc on peut révérer, un exemple qui peut être donné là, on peut révérer et craindre les hommes de deux manières. Premièrement à cause de ce qu'il y a en eux divin, comme les grâces, les vertus, ou du moins l'image de Dieu. Dans ce sens, celui qui ne respecte pas ses semblables est répréhensible. Bon. Secondement, on peut révérer et craindre les hommes selon qu'ils sont les ennemis de Dieu. À ce point de vue, on est louable de ne pas les craindre. D'accord ? Il y a des actions auquel l'homme ne doit consentir par aucune crainte, parce que c'est un grand mal de les commettre que de souffrir une peine quelconque. C'est un plus grand mal, pardon, de les commettre que de souffrir une peine quelconque. Alors, la crainte servile est-elle bonne ? Alors, il va répondre, la crainte servile est bonne dans sa substance, mais en fait, c'est qu'il prend le mot servile dans un sens différent pour lui. Quelqu'un qui craint le péché, quelqu'un qui se tourne vers Dieu parce qu'il craint la peine, c'est la crainte servile. Bon. En fait, en théologie, maintenant, le sens a un peu changé. Dans le catéchisme, on appelle crainte servile, c'est celui qui craint d'offenser Dieu et qui garde le désir de l'offenser. Il n'offense pas parce qu'il ne peut pas le faire. Mais s'il pouvait, il le ferait. Bon. Alors, l'Écriture loue, justement, Élie et Élisée de n'avoir pas redouté le prince pendant leur vie. Il y a des actions que l'homme ne doit consentir par aucune crainte, parce que c'est un plus grand mal de les commettre que de souffrir une peine quelconque. D'accord ? Alors, oui, il faut faire attention, parce que là, ici, saint Thomas d'Aquin utilise certains mots dans un sens un peu différent d'une autre. Qui est au XIIIe siècle, les mots ont certains sens qui ont pu changer un peu aujourd'hui. D'accord ? Alors, donc, dans ce cas-là, il dit que la crainte servile est bonne dans sa substance. Parce que c'est une crainte de la peine, mais une crainte insuffisante. C'est pour ça qu'il l'appelle servile. La crainte servile est-elle en substance la même que la crainte filiale ? Ben non, justement. Parce que l'une redoute le châtiment, l'autre le péché. Deux mots bien différents. D'accord ? Donc la crainte filiale, c'est la crainte du péché, et la crainte servile, c'est la crainte de la peine du péché, mais le désir de continuer de commettre le péché tant que c'est possible. D'accord ? Donc la crainte servile et la crainte filiale ne sont pas les mêmes en substance. Article 6 de la question 19, la crainte servile demeure-t-elle dans la charité ? Donc la crainte servile vient du Saint-Esprit, dont les bienfaits ne sont pas détruits par la présence de la charité. Alors attention, encore une fois, là, il utilise le mot servile dans un sens différent du nôtre, actuellement, dans le catéchisme romain, le catéchisme traditionnel, d'accord, qui a été écrit après saint Thomas d'Aquin. Puisque c'est surtout le travail de catéchisme de Sapidis, le catéchisme de 1910, catéchisme du Concile de Trente, c'est 1570, pardon. Donc, la crainte servile demeure-t-elle avec la charité ? Elle vient du Saint-Esprit, dont les bienfaits ne sont pas détruits par la présence de la charité. Cependant, dans le catéchisme traditionnel, la crainte servile a un autre sens, c'est la crainte de l'esclave. La crainte du chien qui ne fait pas une bêtise parce qu'il a peur de prendre des coups. Mais s'il n'y avait pas de coups, il ferait la bêtise. Bon. Évidemment, si j'ai en moi le désir, je continue d'avoir le désir d'offenser Dieu. Bon, je ne l'offense pas parce que je ne peux pas, mais si je pouvais, je le ferais. Mais c'est évident qu'on n'a pas l'amour de Dieu. D'accord ? Article 6. La crainte servile demeure-t-elle avec la charité ? Donc, on a déjà vu ça. La crainte de la peine peut exister avec la charité au même titre que l'amour de soi. Par conséquent, elle est enfermée dans la charité quand nous redoutons la séparation de Dieu comme le plus grand de tous les mondes. Le mot, et c'est ce qu'on appelle la crainte filiale. Crainte filiale, ça correspond, la crainte filiale dans saint Thomas correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui la contrition parfaite. D'accord ? Donc la crainte filiale est une crainte qui efface tous les péchés parce que c'est un acte de charité parfaite. Au contraire, la crainte servile, dans l'esprit actuel, dans l'esprit du catéchisme du Concile de Trente, du Codice de Saint-Pélis, la crainte servile est une crainte tout à fait insuffisante, parce que c'est la crainte du chien qui a peur de recevoir un coup, de l'esclave qui agit parce qu'il est obligé de le faire. Mais s'il ne pouvait pas le faire, il ne le ferait pas. Alors, la crainte de peine est renfermée dans la charité quand nous redoutons la séparation de Dieu comme le plus grand de tous les maux, c'est que le propre de la crainte filiale. Le pire des malheurs qui puissent nous arriver, c'est de perdre Dieu. Donc si j'ai perdu Dieu, j'ai tout perdu. Alors, ce qui est incompatible avec la charité, c'est la crainte de servilité, dit saint Thomas, qui redoute comme un mal souverain la privation d'un bien particulier qu'on aime comme sa fin dernière. C'est-à-dire que je remplace Dieu par une autre, par une créature. D'accord ? Et c'est ça la crainte servile. Septième article, la crainte est-elle, la crainte de Dieu est-elle le commencement de la sagesse ? La réponse est oui. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. C'est le psaume 110, la crainte est le commencement de la sagesse. Pourquoi ? Parce que la sagesse envisagée dans son essence a pour commencement les premiers principes de la foi. La crainte est le commencement de la sagesse. Vous avez sept dons du Saint-Esprit. Le plus petit, c'est la crainte de Dieu. Le plus grand, c'est la sagesse. Mais si vous avez le plus petit, vous êtes le plus grand. Parce que le plus petit, la crainte de Dieu, est le début de la sagesse. Il peut y avoir le plus grand, la sagesse, sans la présence du petit, à savoir la crainte de Dieu. C'est pour ça que le monde moderne, l'église de Vatican II, on le voit très bien, l'église de Bergoglio, donc ils détruisent la crainte de Dieu pour pouvoir faire pécher les hommes. Les hommes qui perdent la crainte de Dieu, évidemment, vont pécher bien plus que l'homme qui a gardé la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, dit saint Thomas, est une sorte de principe extrinsèque qui nous éloigne du péché et nous rend par là même propre à l'amour de la sagesse. Donc la crainte du Seigneur chasse le péché. Au lieu que la crainte filiale, le commencement réel et effectif de la sagesse elle-même. D'accord ? Mais la crainte de Dieu, même une crainte imparfaite, est le début de la sagesse. En fait, pourquoi ? Parce qu'une crainte imparfaite va se transformer sous l'influence de la sagesse en crainte parfaite. En effet, dit saint Thomas, si la sagesse doit régler la vie humaine d'après les lois divines, elle doit commencer en nous par un sentiment de respect et de soumission à l'égard de Dieu. La crainte du Seigneur est donc la racine de la sagesse. La crainte de Dieu, la sagesse humaine, celui qui a la crainte de Dieu a la sagesse, parce que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Alors on avance un petit peu dans cette question numéro 19. La crainte initiale diffère-t-elle en substance de la crainte filiale ? Donc voilà ce que dit saint Thomas. Donc, il parle d'une crainte qui existe dans les commençants, dans la vie spirituelle, chez lesquels une crainte quelconque se manifeste par un commencement de charité. Mais en qui la crainte filiale n'est pas parfaite, leur charité ne l'étant pas elle-même. Donc, si la charité est imparfaite, il ne peut pas y avoir de crainte filiale. Qui dit crainte filiale dit charité parfaite. La crainte initiale est à la crainte filiale, ce que la charité imparfaite est à la charité parfaite. Donc la crainte initiale, pour saint Thomas, c'est une charité imparfaite. Crainte filiale, c'est une charité parfaite. D'accord ? Donc la crainte servile introduit la charité, disent les commentateurs, comme l'aiguille introduit le fil. Mais là, encore une fois, ils prennent le mot crainte servile dans un sens complètement différent. D'accord ? La crainte servile, c'est se tourner vers Dieu parce que je crains la peine. Ça s'appelle la crainte servile. Alors, la crainte est un don du Saint-Esprit. Donc, la crainte de Dieu est dans la liste des sept dons du Saint-Esprit. Alors, en tant que charité imparfaite, c'est la crainte initiale. En tant que charité parfaite, c'est la crainte filiale. Donc, la crainte de Dieu, dit saint Thomas, énumérée parmi les sept dons est la crainte filiale ou chaste. Les dons produisent en nous une grande docilité par rapport au mouvement d'Esprit Saint et tel est l'effet de la crainte filiale qui nous fait révérer Dieu et craindre de nous en séparer. Donc c'est déjà une crainte parfaite. Crainte filiale égale crainte parfaite. La crainte du fils par rapport à son père qui craint d'offenser son père parce qu'il aime son père. Donc la crainte finale n'est pas opposée à la vertu de l'espérance, elle nous fait craindre seulement de nous soustraire nous-mêmes par le péché au secours divin. Le pire des malheurs qui puissent nous arriver, c'est de commettre le péché mortel. Donc l'homme a une crainte de perdre Dieu. Article 10 de la question 19. La crainte diminue à la mesure que la charité augmente. Bon. La crainte filiale augmente avec la charité, dans le sens de crainte, crainte en tant que don du Saint-Esprit. Donc la crainte filiale, c'est la crainte, c'est la contrition parfaite. Qui dit contrition parfaite, qui dit crainte filiale, dit augmentation de la charité. Contrition parfaite, c'est quoi? C'est un acte de charité. Le plus bel exemple d'acte de charité, c'est le martyr. Le martyr correspond à un acte de charité parfaite, donc efface tous les péchés. Un baptême d'adulte correspond à un martyr. Je dis souvent aux adultes que je baptise, attention, maintenant votre âme est que comme l'âme d'un petit enfant. Le bon Dieu a oublié tous les péchés passés, non seulement tous les péchés passés, mais a oublié aussi toutes les peines temporelles dues au péché, les peines du purgatoire. Alors, la crainte filiale n'est pas opposée à la vertu d'espérance. Elle ne nous porte pas à désespérer de la grâce de Dieu. Elle nous fait craindre seulement de nous soustraire à nous-mêmes par le péché au secours divin. Donc, la pire des craintes pour nous, c'est de penser que je peux perdre Dieu par la grâce, par le péché mortel. Alors, la crainte diminue-t-elle à mesure que la charité augmente? Donc, il dit la crainte filiale augmente avec la charité. Donc, cette crainte bonne, la crainte de contrition parfaite, n'est pas incompatible avec la charité. Donc, plus la charité augmente, plus la crainte de Dieu, en tant que contrition parfaite, augmente. La crainte de la peine, elle-même diminuée avec l'augmentation de la charité, notamment par rapport à son acte. Plus on aime Dieu, moins on craint ses châtiments. Pourquoi? Parce qu'on change moins à son propre, on songe moins à son propre bien, on espère davantage que l'on sera récompensé de Dieu même. Donc, plus on aime Dieu, moins on craint ses châtiments. Donc on est immergé dans l'amour du bon Dieu, on pense, on a une charité parfaite, une contrition parfaite de tous nos péchés, mais bien on ne s'occupe plus des sentiments parce que c'est l'amour du bon Dieu qui a pris la place. Alors, article 11, la crainte subsiste-t-elle dans le ciel? Donc, elle subsiste en tant que don du Saint-Esprit. Elle subsiste donc dans tous les siècles. Mais la crainte servile, évidemment, n'existe pas au paradis. Par contre, la crainte parfaite, elle, existe au paradis. Ce que dit saint Thomas, la crainte servile ou crainte du châtiment n'existe en aucune façon dans la patrie céleste. Mais la crainte filiale qui augmente avec la charité sera parfaite quand la charité le sera elle-même. Donc la crainte de Dieu, le don de crainte de Dieu, le début de la sagesse, et la sagesse c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Donc la crainte de Dieu sera celle qui affermit dans le bien qu'on ne peut perdre et non dans la crainte qui redoute le mal. Une belle phrase ça aussi. Donc voilà cette phrase de saint Thomas. La crainte affermit dans le bien qu'on ne peut perdre et non la crainte qui redoute le mal. Donc la crainte parfaite, donc crainte de Dieu en tant que don du Saint-Esprit, ne peut exister dans une âme que s'il y a l'état de grâce. Si on perd l'état de grâce, on perd tous les dons du Saint-Esprit, y compris le plus petit, à savoir la crainte de Dieu, et bien sûr le plus grand, la sagesse et tous les autres. Bon, l'existence de la crainte dans le ciel n'est pas un dogme de foi. Note ici du commentateur. Comme on le voit, saint Thomas reconnaît avec saint Augustin que l'on peut soutenir qu'il y a dans le ciel aucune espèce de crainte, mais lui ne partage pas ce sentiment. Encore une fois, ça dépend du terme qu'on utilise. Lui, quand il parle de crainte de Dieu, c'est la charité parfaite. La crainte de Dieu, oui, existe au ciel. C'est évident, parce que c'est la charité parfaite. Alors, comme toujours, saint Thomas, je vous l'ai dit, ne parle pas des commandements, mais il parle des vertus, et après les dons du Saint-Esprit qui correspondent à cette vertu d'espérance à laquelle va correspondre le don de crainte de Dieu, et ensuite la béatitude qui correspond. C'est l'article 12. La pauvreté d'esprit correspond-elle au don de crainte? La crainte du Seigneur, dit saint Augustin, convient aux hommes humbles dont il est dit « bienheureux les pauvres d'esprit ». Quiconque donc craint Dieu parfaitement ne met sa gloire ni en lui-même par l'orgueil, ni dans les biens extérieurs, deux dispositions qui appartiennent à la pauvreté d'esprit. que l'on peut entendre avec saint Augustin, de l'absence de l'orgueil, avec saint Ambroise, du mépris des biens temporels, pauvreté d'esprit. Pauvreté, les pauvres d'esprit, c'est ceux qui ne mettent sa gloire jamais en lui-même, ni dans les biens extérieurs, mais en Dieu lui-même. D'accord ? Donc, deux dispositions qui appartiennent à la pauvreté d'esprit. Celui qui a la pauvreté d'esprit a l'absence d'orgueil et mépris des biens temporels. Donc, il y a deux moyens de voir que la personne a cette béatitude des bienheureux et des pauvres en esprit. C'est l'absence de l'orgueil et le mépris des biens temporels. Plus on a de biens temporels, plus c'est évidemment difficile de pratiquer cette pauvreté d'esprit. Oui, donc on voit bien, on voit très bien chez saint Thomas, c'est cette progression. Alors on va avancer encore un petit peu, je n'aurai pas le temps, je vais terminer traiter l'espérance, mais je n'aurai pas le temps de terminer l'espérance en une heure, c'est pas possible. Alors, saint Thomas, donc, vous voyez, c'est toujours le même ordre. Donc, il parle des vertus, la vertu théologale d'espérance, le don qui va avec, c'est donc crainte de Dieu. La béatitude qui correspond, c'est bienheureux les pauvres en esprit. Et maintenant, il va rajouter, pour terminer, si vous voulez, l'étude de cette vertu, des péchés contre cette vertu. D'abord, du péché de désespoir. Péché de désespoir. Alors, le désespoir n'est certainement pas le péché le plus grave. Attention, le péché d'orgueil est bien plus grave. Mais c'est le péché le plus dangereux. Et malheur à celui qui, justement, garde le désespoir dans son esprit. Parce que s'il garde le désespoir dans son esprit, il n'y arrivera jamais à trouver la paix. Bon. Alors, on va arrêter là. On va arrêter là parce que j'ai un peu crevé aujourd'hui parce que j'ai passé 14 heures dans les bouchons en revenant de Montpellier hier. Aïe aïe aïe, 14 heures de bouchons, vous vous rendez compte. Et quand je me couche un peu tôt ce matin, je suis rentré ce matin à 6h30. J'ai passé toute la nuit derrière le chasse-neige pour monter vers Millau. Voilà, donc prochaine fois, donc il reste deux péchés à étudier. Donc, dans le cadre de la vertu d'espérance, le désespoir, c'est un péché extrêmement fréquent, malheureusement, et de la présomption, donc c'est l'inverse. Le désespoir, c'est, on va expliquer, désespoir, c'est perdre l'amour du bon Dieu. Le désespoir ne va voir que la justice de Dieu et oublier la miséricorde, et la présomption, il voit que la miséricorde et oublie la justice. Et donc, il faut l'union des deux choses, justice et miséricorde. Oui, ça c'est un des crimes de Vatican II. Vatican II a supprimé la crainte de Dieu. Et en supprimant la crainte de Dieu, a supprimé complètement la justice de Dieu et font croire qu'il n'y a plus que la miséricorde qui compte. La miséricorde, elle est basée sur la justice. Encore une fois, nous verrons que la miséricorde sans la justice, c'est, si vous voulez, quelque chose d'instable. La miséricorde sans la justice, c'est de la faiblesse. Et la justice sans la miséricorde, c'est de la cruauté. Donc il faut les deux choses. Alors, sûr, il faut les deux choses, ça on va bien l'expliquer, parce que tant le désespoir que la présomption sont dangereuses. Alors, quel est le plus dangereux des deux? Je pense que c'est le désespoir, on verra ça. Mais, on peut dire que le désespoir est à la miséricorde, ce que la présomption est à la justice, dans le sens que la présomption oublie la justice, et le désespoir oublie la miséricorde. Et je pense que c'est plus grave d'oublier la miséricorde du bon Dieu, parce que Dieu est miséricorde. Et c'est triste de voir que certaines personnes dans les milieux traditionnalistes, de gens qui se prennent pour des saints, font des gros yeux dès qu'on leur parle de miséricorde. Parce qu'ils ont l'impression que... Moi, c'est toujours si on ne traite pas de modernisme, parce que je parle très souvent de la miséricorde dans mes sermons.
Ça revient pas un peu au jansénisme.
Mais c'est une forme de mon jansénisme. Moi, j'ai connu des séminaristes comme ça, qui étaient pratiquement des jansénistes, je ne vais pas donner de nom, mais... certains séminaires qui sont fondés actuellement, quelque part en France, eh bien, c'est ça, quoi, c'est la justice, la miséricorde est oubliée. Vous voyez ? Quand il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas d'amour. D'accord ? Alors, on verra ça, si Dieu veut, donc, jeudi prochain. Alors, on va terminer par une petite prière. Oups. Non, du coup. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.